10h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 16h et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment allez-vous ma chère?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Bonjour, pendant cette heure nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu, comme vous le savez, nous intéresse. Connaissez-vous votre dosha? Ce terme peu connu est le fondement d'une science ancestrale, l'Ayurveda. Des marques de cosmétiques ou de thé contribuent à populariser ce terme en France. Mais de quoi parle-t-on exactement? L'Ayurveda est une médecine traditionnelle née en Inde et considérée comme l'une des plus anciennes au monde. Depuis 1982, elle est même reconnue par l'OMS. Vue par certains comme un art de vivre, elle repose sur une alimentation saine, des remèdes à base de plantes en tout genre ou encore des techniques de massage. Ces rituels quotidiens visent à trouver un équilibre entre le corps et l'esprit pour atteindre la pleine santé physique et mentale. Mais peut-on facilement intégrer les rituels ayurvédiques à notre quotidien? Cette médecine ancestrale peut-elle réellement soigner? Médecine ayurvédique, qu'est-ce que c'est? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute comme chaque jour au standard d'Europe 1, 39, 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez également réagir, nous écrire, poser vos questions via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 ou sur Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Natalia sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Natalia, soyez la bienvenue.
Bonjour, merci beaucoup.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Natalia?
J'ai 31 ans et je suis en Espagne en ce moment.
D'accord, où en Espagne exactement?
Dans le sud, à Cadix, dans l'Andalousie.
D'accord, eh bien quelle chance!
Oui.
Alors Natalia, vous avez découvert l'Ayurveda il y a 3 ans et vous dites qu'à ce moment-là, vous étiez dans une recherche de mieux-être. Expliquez-moi.
Alors, moi, je me suis toujours intéressée beaucoup par les bien-être et avoir un style de vie sain et manger le plus sainement possible et tout ça.
Oui.
Et j'ai trouvé un moment qu'il y avait trop d'informations sur les blogs, sur Internet, sur les magazines qui disaient il faut faire ce type de régime ou il faut faire ce type de sport. Et je me sentais un peu perdue. Et quand j'ai découvert l'Ayurveda, c'est comme si j'avais trouvé toutes les réponses aux questions que je me posais concernant qu'est-ce qui me correspond, moi, les mieux, comme alimentation, soins corporels, sport, et des choses comme ça.
Cela vous a paru très complet par rapport au questionnement que vous aviez autour de ce que vous cherchiez, finalement?
Oui, parce que des fois, on prône ou on dit qu'il y a certains régimes qui sont super, mais l'Ayurveda dit peut-être que pour certaines personnes, oui, et pour d'autres, non. Et c'est la première fois que moi, j'ai vu qu'il n'y avait pas une réponse unique pour tout le monde, mais que c'était plutôt une approche personnalisée, voilà, d'un plein d'aspects de nos vies.
Alors, est-ce que ça a été difficile pour vous d'intégrer les rituels ayurvédiques dans votre quotidien?
Pas trop, parce que j'avais déjà commencé une petite routine matinale où je faisais du yoga, même avant de savoir que ça correspondait à ma routine ayurvédique.
Oui.
Et après, alors au début, c'est beaucoup trop d'informations, mais aussi l'Ayurveda, ce qu'il recommande, c'est d'aller petit à petit.
D'accord.
Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai appris à ne pas trop me prendre la tête et à faire les choses à mon rythme. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui,
vous pouvez nous citer quelques exemples justement de rituels ayurvédiques que vous appliquez chaque jour?
Oui, alors je fais, pas l'été, mais tous les restes de l'année, je commence ma journée avec un verre d'eau chaude.
Ouais.
L'été, c'est plutôt tiède.
Ouais.
Après, j'aime beaucoup pratiquer 2 fois par semaine l'automassage à l'huile chaude sur mon corps.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris que c'était bon pour moi, parce qu'avant, je pratiquais plutôt ce qu'on appelle un massage à sec, mais pour ma peau, pour mon profil ayurvédique, ça ne correspondait pas. J'ai arrêté de faire ça.
Où est-ce que vous vous massez, comme c'est un automassage, vous vous massez les jambes, les bras, le torse?
Tout le corps.
Ouais.
Dans la salle des bains, c'est un massage ou une application d'huile. Il ne faut pas que ça dure non plus 20 minutes, c'est juste 5 minutes avant
D'accord.
de prendre ma douche.
Mmh.
Et tout mon corps, même dans les oreilles, c'est conseillé de mettre un petit peu d'huile juste avec les doigts.
Vous avez appris à cuisiner selon les principes de l'Ayurveda. Cela signifie que vous adaptez votre alimentation à votre profil ayurvédique, votre dosha, comme on dit. Qu'est-ce que ça veut dire et suivez-vous des règles très précises?
Alors, très précise, je dirais non. Mais j'adapte mon alimentation non seulement en fonction de mon profil ayurvédique, mais aussi des saisons.
Oui.
Donc, c'est un peu du bon sens. Hein. En hiver, on mange plus gras, plus lourd. En été, un peu plus léger, plus de crudités.
Oui.
Rien de fou là-dessus. Mais aussi, j'ai appris que moi, avec mon dosha dominant, qui est Vata, et que l'automne et l'hiver, je dois vraiment faire attention à manger des choses plutôt lourdes, légères, sucrées. Du coup, je me fais plaisir, mais tout avec, on peut dire, des aliments de bonne qualité aussi, pas des choses industrielles lourdes.
D'accord.
Et tout ça.
Ce profil Vata, expliquez-moi, quel est-il ce profil Vata?
Alors, ce qui est caractérisé de profil Vata, et physiquement, ça correspond à quelqu'un, soit de très grand, soit de très petit. Moi, je suis plutôt très grand et mince. Et aussi, moi, j'ai tendance à avoir la peau sèche et je peux avoir tendance à avoir de la constipation plutôt que de la diarrhée.
Ouais.
Et aussi, au niveau de l'esprit, les personnes Vata sont des personnes très créatives et qui ont toujours envie de faire des projets nouveaux, qui se projettent beaucoup dans le futur.
Alors, l'Ayurveda, vous diriez que c'est un mélange justement de pratiques, comme vous venez de nous en citer, et puis une démarche spirituelle continuelle?
Oui. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça, et c'est très bien. Et pour moi, l'Ayurveda, c'est vraiment une science. Ayurveda, ça veut dire la science de la vie,
oui,
qui explique comment les corps fonctionnent, comment l'univers fonctionne à travers les cinq éléments, l'espace, l'air, les feux, l'eau et la terre. Et du coup, voilà, quand on sait comment les choses marchent, bah, on peut mieux d'abord se connaître, s'accepter et mieux prendre soin de soi.
Natalia, vous restez en ligne avec nous. Nous allons continuer à parler de votre pratique de l'Ayurveda au quotidien. Vous restez avec nous. On se reparle dans quelques instants.
Europe 1.
Aide à la relaxation, au bien-être, à l'épanouissement personnel pour retrouver un bon équilibre. L'Ayurveda, vous pratiquez, vous nous appelez au 3921. Cette médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, qui regroupe la diététique, la phytothérapie, les massages, la respiration. Vous appliquez les principes de la médecine ayurvédique. Comment l'intégrer dans votre quotidien? Vous nous le dites au 3921.
Nous sommes toujours en ligne avec Natalia qui nous expliquait pratiquer donc l'Ayurveda au quotidien avec son profil Vata. Vous dites que l'Ayurveda, Natalia, vous a permis de mieux connaître vos besoins et de trouver une forme d'équilibre. Cela vous aide dans tous les aspects de votre vie, physiquement comme mentalement?
Oui, et je dirais que c'est surtout l'aspect plus psychologique de l'esprit
qui
m'a finalement convaincue et qui m'a beaucoup aidée. C'était surtout dans ce moment de ma vie où ça n'allait pas trop, et ben j'ai appris à identifier pourquoi ça n'allait pas et qu'est-ce que je devais faire pour mieux aller.
Justement, l'Ayurveda est considéré comme une médecine traditionnelle, vous l'avez dit. Vous l'utilisez pour vous soigner ou vous continuez à faire appel à la médecine moderne aujourd'hui parce que ça semble vous avoir apporté un certain équilibre?
Moi, je m'en sers de l'Ayurveda plus pour les côtés prévention, qui est très, très développé en Ayurveda. Comment, avec un style de vie et une alimentation adaptée à nos besoins, on peut être éloigné de la maladie.
Oui.
Mais pour quand je tombe malade, ce qui ne m'arrive pas très souvent, heureusement,
oui,
et ben, moi, je fais souvent appel à la médecine moderne parce que je pense que la médecine ayurvédique ou la médecine traditionnelle ne sont pas encore très accessibles aujourd'hui. Et je ne pense pas du tout qu'ils soient... je pense qu'ils sont complémentaires l'une de l'autre.
D'accord.
Donc, j'aime bien mélanger les deux.
Vous dites qu'en Ayurveda, être en pleine santé n'a pas exactement la même signification qu'en médecine moderne. Qu'entendez-vous par là?
Alors, quand une personne ou moi, si je vais chez les médecins, je dis « Ah, je ne me sens pas bien, je me sens un peu stressée ou j'ai des petits maux. » Pour un médecin allopathique, ça, c'est pas des symptômes d'une réelle maladie qui est clinique. Oui. Mais pour l'Ayurveda, ça, c'est des signes que quelque chose ne va pas bien. Parce qu'un Ayurveda, être en bonne santé, ce n'est pas non seulement ne pas avoir des symptômes, ne pas avoir une maladie, mais c'est vraiment avoir un bon sommeil, une bonne digestion, et être heureux et se lever les matins avec envie de réaliser des projets. Oui. Donc, si on n'a pas ça, c'est que quelque chose ne va pas. Et du coup, l'Ayurveda donne pas mal d'outils pour aller mieux.
Alors, vous avez suivi plusieurs formations en Ayurveda en France. C'est quelque chose que vous avez envie de transmettre aujourd'hui. Vous habitez le sud de l'Espagne ou vous n'y êtes qu'en vacances?
J'habite en ce moment le sud de l'Espagne, oui.
Oui, et alors, est-ce que vous avez envie de transmettre ce savoir ayurvédique?
Oui. Et d'ailleurs, je l'ai fait grâce à la modernité des réseaux sociaux et d'Internet.
Oui.
J'ai une chaîne YouTube, j'ai créé un groupe Facebook où j'échange en français avec plein de monde de ces sujets.
D'accord.
Donc oui, je ressens un fort besoin d'échanger sur ça et d'aider les gens ou les accompagner, et même si c'est à distance. Donc oui.
Comment s'appelle votre chaîne, comment s'appelle votre chaîne YouTube?
Alors, ça s'appelle comme moi, c'est Natalia Avril.
Oui.
Avril, écrit avec un P devant la V.
Oui.
Et un groupe Facebook un groupe Facebook qui s'appelle Je me mets à l'Ayurveda.
Oui.
On est aussi très nombreux et tout le monde est invité et s'y s'intéresse de près ou de loin à l'Ayurveda. Uh-huh.
Quel retour vous avez par rapport aux réseaux sociaux, justement, à cette chaîne YouTube et puis à cette page Facebook? Est-ce qu'on vous pose beaucoup de questions? Est-ce que vous avez l'impression de faire régulièrement des adeptes à l'Ayurveda?
Alors, j'ai des retours assez positifs, des gens qui me disent surtout qu'avec mes vidéos et les contenus que je partage, ils arrivent à mieux comprendre ce qu'est l'Ayurveda, parce que des fois, ça peut sembler un peu complexe, un peu bizarre, mais moi, j'utilise des mots un peu de tous les jours et j'essaie de faire ça de façon un peu ludique, un peu... c'est clair et simple. Du coup, j'ai des bons retours de ces côtés-là. Et après, donc, dans les groupes Facebook, ce n'est pas à moi que les questions sont adressées, mais à tout le monde du groupe.
Oui.
Et on me dit souvent aussi que c'est un groupe très bienveillant, qu'on aime bien, et qu'on se sent bien là-bas et tout. Donc,
qu'il y a un bon échange.
Je pense que je fais ou qu'on fait des adeptes.
Quelle femme êtes-vous aujourd'hui, Natalia? Vous êtes une femme aujourd'hui beaucoup plus équilibrée qu'avant en ayant pratiqué l'Ayurveda?
Je pense que oui, et plus sage aussi.
Plus sage? Ça veut dire quoi,
oui.
Ça, plus sage?
Bah, ça veut dire que comme j'ai appris à mieux me connaître et à mieux m'accepter,
oui.
Ça me permet aussi d'accepter aussi les gens autour de moi tels qu'ils sont, de moins juger, d'être moins...
De poser plus concrètement les choses, peut-être, non?
Oui.
Quel conseil alors vous donneriez à ceux qui nous écoutent là et qui aimeraient débuter l'Ayurveda?
Soit aller à la bibliothèque, soit à une librairie et prendre un livre, parce qu'au début... Et on peut trouver pas mal d'informations, tout et n'importe quoi. Et moi, je pense que juste lire un livre sur l'Ayurveda du début à la fin, peu importe lequel, ça va permettre d'être un peu dans cette nouvelle monde, d'avoir les concepts basiques pour après, peut-être après plus loin, aller plus loin, soit en faisant une formation ou sur Internet pour échanger. Mais ouais, je pense que commencer par un livre, c'est une bonne option.
Une bonne option où sûrement on arrive à puiser ici et là des choses qu'on peut commencer à appliquer pour être une... Comment s'appelle une personne qui pratique l'Ayurveda?
Je ne pense pas qu'il y a un nom pour ça.
Ah bon, d'accord. Alors on pratique l'Ayurveda. Mille fois merci en tout cas Natalia pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Et dans un instant, nous allons accueillir Fabien Koresh. Il est praticien en Ayurveda et co-auteur de l'ouvrage « Ma Bible de l'Ayurveda » paru aux éditions Le Duc.
Europe 1.
Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21, pour nous appeler, pour nous dire pourquoi vous êtes adepte de l'Ayurveda, que vous apporte cette médecine traditionnelle indienne. Écrivez-nous également sur Twitter, hashtag Europe 1. Un seul numéro que vous connaissez, le 39-21, pour venir nous dire pourquoi vous appliquez les principes de la médecine ayurvédique et quels sont-ils justement ces principes. Venez échanger avec Olivier Delacroix et vous réagissez via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et pour en parler, nous accueillons maintenant Fabien Koresh, praticien en Ayurveda et co-auteur de l'ouvrage Ma Bible de l'Ayurveda, paru aux éditions Le Duc. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour, merci d'avoir consacré une émission sur l'Ayurveda.
Mais je vous en prie. Alors, on va parler des doshas. On a dit que ces doshas étaient l'un des fondements de l'Ayurveda. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et quels sont-ils ?
Oui, alors les doshas, c'est vrai que c'est très, très important, c'est assez primordial de les connaître quand on aborde l'Ayurveda. C'est un peu des principes biologiques, il y en a trois en Ayurveda. Ils sont composés des cinq éléments naturels majeurs qui sont pour l'Ayurveda l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. C'est un peu par analogie ce qui est dans la chimie moderne, ce qui est les éléments gazeux, liquides et solides.
Oui.
Voilà, et celui qui en a fait peut-être la description moderne la plus explicite pour nous, c'est le père de la médecine expérimentale, Claude Bernard, au 19e siècle, qui a parlé d'homéostasie, hein, pour désigner que dans chaque organisme vivant, c'est un espace ouvert aux échanges et de matière continue avec l'extérieur en matière d'énergie et de la matière elle-même.
Mais en pratique, en fait, ces doshas, quels sont-ils exactement ?
Alors, ces doshas, il y en a trois, comme je disais. Il y a Vata, Pitta et Kapha.
Oui.
Le Vata est lié à tout ce qui va être les mouvements, hein, les mouvements cinétiques dans l'organisme, comme la circulation sanguine, par exemple, les mouvements de la digestion, le mouvement cardiaque, le mouvement de la respiration. Et aussi tout ce qui est la communication et les transmissions via le système nerveux. Donc ça, c'est ce qui est accordé à l'organisme pour ce qui est le Vata. Pour le Pitta, c'est l'humeur biologique qui est liée à tout ce qui est la transformation dans l'organisme.
Oui.
C'est-à-dire aussi ce qui va être la digestion elle-même, par exemple, ce qui va être la chimie du corps. Ce qui est le système endocrinien aussi, ça c'est lié au principe de l'humeur biologique Pitta. Et Kapha, c'est l'eau et la terre, hein, dans la symbolique en Ayurveda. Donc c'est vraiment tout ce qui est le métabolisme de l'eau, tout ce qui est la matière la plus dense aussi au niveau du corps.
D'accord, alors le Varda, le Pitta, le Kapha, faut-il nécessairement consulter un praticien en Ayurveda pour connaître tout cela, pour connaître son dosha principal ?
Alors bien sûr, il y a des facilités d'avoir des quiz, hein, d'avoir des questionnaires comme ça dans les magazines ou dans des livres. C'est assez ludique, hein, de pouvoir choisir ces questions-réponses et puis d'en conclure son humeur biologique dominante. C'est vrai que c'est pas si simple que ça. Hein. Il faut avoir un peu des notions sur ce qu'est l'Ayurveda en général.
Oui.
Et pour définir vraiment une constitution, ce qu'on appelle une constitution ou la prakriti en Ayurveda, il y a au moins 8 points d'observation corporelle à faire. Hein.
D'accord.
Donc c'est vrai qu'on ne peut pas les faire que par ici.
Alors vous expliquez dans votre ouvrage que l'Ayurveda est une médecine globale. Elle intervient autant sur la santé physique que mentale. Expliquez-moi où on trouve son équilibre.
Voilà, c'est un peu tout ce qui a été observé sur les principes de somatisation.
Oui. Hein,
c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une interaction entre la partie mentale, ce qui peut être le rythme des pensées, l'imprégnation des émotions, qui va prendre corps, qui va se figer ensuite dans vraiment une partie physique, hein, que ce soit un organe ou une fonction. Si on aborde ou si l'on soigne l'une ou l'autre des parties, on va par effet miroir, amener du bien-être à l'autre partie qui est concernée.
D'accord. L'Ayurveda est une médecine préventive, hein, entendons-nous bien. Elle ne soigne pas quand la maladie s'est installée.
Alors, en France, hein, il faut bien distinguer les choses. Effectivement, les possibilités d'application de l'Ayurveda en France et en Inde,
Oui.
En France, c'est surtout effectivement une médecine qui est préventive. On n'a pas la possibilité de pouvoir avoir les plantes qu'il faut, les traitements adaptés pour en faire une médecine curative. Mais il n'empêche qu'effectivement, déjà en enlevant tout ce qui pourrait être contraire à la praxis, donc à la constitution de la personne, il peut y avoir un rétablissement spontané de pathologies légères, on va dire quand même,
Oui.
sans avoir à recours à la partie curative.
On remarque que beaucoup de marques prétendent s'inspirer justement des principes ayurvédiques. Qu'en pensez-vous, vous? Est-ce vraiment le cas et pas juste une histoire de marketing?
Alors, bien entendu, plus les années passent, plus l'Ayurveda, le nom de l'Ayurveda est connu, plus ça a un attrait au niveau commercial, bien entendu. Ce qui est de l'ordre des compléments alimentaires en Ayurveda, il faut être assez soucieux des origines. Hein,
Oui.
ça, c'est sûr, parce que l'aspect du commerce autour des plantes prend énormément d'ampleur. Et tout le monde n'est pas très soucieux de cueillir la plante au bon moment, de la transformer correctement et qu'elle la soit acheminée jusqu'à la personne de façon optimum, hein, et qu'elle puisse en avoir un effet efficace. Après,
Dites-moi.
toute la partie de ce qui est, je dirais, hein, j'ai déjà vu le coussin ayurvédique.
Ouais.
Bon, par exemple, là, on voit bien qu'il y a un rattrapage commercial.
Oui, mais ce rattrapage, il correspond aussi à une époque où voilà, le yoga, toutes les médecines qui sont liées, enfin, je ne sais pas comment on peut parler de ces médecines douces, hein, en gros. Est-ce que l'Ayurveda en fait partie de ces médecines douces et quelle est la portée de cette médecine traditionnelle indienne en Occident aujourd'hui?
Alors, elle est tout à fait reconnue hein, par l'OMS, hein,
D'accord.
l'Organisation mondiale de la santé. Hein, comme vous avez dit dans l'introduction, elle est reconnue. L'OMS en a même fait une définition hein, et a même décrit que devaient comporter les formations pour thérapeutes ou médecins ayurvédiques. Elle est appliquée ou reconnue de façon très différente d'un pays à l'autre, bien entendu. Par exemple, en Inde, bien sûr, puisque c'est le berceau de l'Ayurveda, vous avez 70% de la population qui a recours à l'Ayurveda pour se soigner, hein, donc ce qui représente quand même
Beaucoup de
au
monde.
moins 980 millions de personnes. Et puis vous avez aux États-Unis, il y a bien 700 000 personnes qui ont été référencées en 2014 comme utilisant l'Ayurveda pour se soigner de façon ponctuelle ou à long cours. En Europe, elle est reconnue par l'Europe, hein, par ce qui est les complémentaires alternatives médecine, EUROCAM, hein, qui s'occupe de tout ce qui est les médecines alternatives et les médecines complémentaires. Donc l'Ayurveda est reconnue comme ce qui pourrait être la médecine tibétaine, chinoise,
On
l'ostéopathie,
va
ou autre. Hein.
continuer justement à parler de cette pratique, de cette médecine qui est l'Ayurveda, avec Muriel, qui a deux enfants et qui applique les principes de cette médecine, l'Ayurveda, donc venue d'Inde, et qui l'applique à ses deux enfants, donc en famille.
Europe 1. Pour favoriser votre bien-être, réduire le stress, éliminer les toxines, vous êtes adepte de l'Ayurveda. Est-elle, selon vous, accessible à tous? On vous écoute au 3921. Cette médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, qui soigne le corps et l'esprit, vous connaissez? Vous appliquez les principes au quotidien. Comment l'Ayurveda vous soigne-t-elle, vous soulage-t-elle? Vous nous racontez, Olivier Delacroix, vous écoute au 3921.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Muriel. Bonjour Muriel, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous, Muriel, vous avez découvert l'Ayurveda quand vous étiez enceinte. C'est une médecine qui vous a beaucoup soulagée à ce moment-là?
Oui, c'est ça. Ça m'a beaucoup soulagée parce que j'avais pris pas mal de poids. Et c'est aussi quand j'ai commencé un peu le yoga.
Oui.
Et je me suis tout de suite sentie vraiment bien, en fait.
D'accord. Votre famille, je crois, a des origines indiennes, hein. Donc, découvrir l'Ayurveda, c'était une façon pour vous de renouer un peu avec vos racines.
C'est ça, exactement.
Vous avez deux jeunes
je viens
enfants.
De la Réunion, en fait.
Vous venez de la Réunion, oui. Où c'est vrai qu'il y a
Voilà.
beaucoup de personnes qui pratiquent l'Ayurveda, puisque beaucoup de personnes d'origine indienne font partie de nos concitoyens de la Réunion. Vous avez deux enfants, deux jeunes enfants, et vous dites que vous appliquez les principes de l'Ayurveda avec eux depuis leur naissance. Vous pouvez nous expliquer comment et quels principes?
Alors, effectivement, donc depuis la naissance, donc ma première fille a 3 ans et demi, la deuxième a 1 an et demi presque. Et donc, ça se traduit par une routine, oui. Le petit déjeuner, le sommeil, comment ça va se passer, qu'elles vont manger surtout. La nutrition est très importante et ça va jouer un grand rôle sur la qualité du sommeil. Alors, sur l'humeur,
quel type de choses, justement, leur faites-vous manger pour que tout ça prenne forme?
Donc ça, c'est un peu de tout, mais ça va juste varier en fonction des saisons. Et du moment de la journée aussi.
D'accord. Par exemple, dites-moi, quand l'été arrive, quel type d'aliments vous choisissez?
D'accord. Alors, en été, je vais prendre des aliments qui vont avoir un effet refroidissant, on va dire.
Oui. Du type?
Qui va compenser avec la chaleur. Mmh. Par exemple, ma fille adore la noix de coco.
Oui.
Et c'est quelque chose qui va travailler sur ce côté chaud, en fait.
Et alors, l'hiver, par exemple, je suppose que vous choisissez des choses qui donnent chaud. Quels sont les fruits ou les mets qui donnent chaud?
En général, en hiver, je fais assez souvent des pommes cuites.
Oui, oui.
Poire ou avec les épices surtout qui vont réchauffer, comme la cannelle et la cardamome. Voilà.
J'ai l'impression que dans l'Ayurveda, on utilise beaucoup les épices.
Oui, c'est très important parce que les épices vont aider notre corps à métaboliser la nourriture, en fait, à faire en sorte que la digestion se passe bien.
Mmh. À tous les repas?
Oui. Que ce soit le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner, j'utilise toujours des épices.
D'accord. Alors, quand ils sont malades, ces deux jeunes enfants, vous tournez vers la médecine moderne tout de même?
Très rarement. J'essaye d'abord avec les remèdes ayurvédiques et en général, ça marche très bien. Donc, à moins qu'il y ait un virus vraiment, je vais rarement chez le docteur. Mais c'est très rare qu'elle soit malade, en fait.
D'accord. Mais alors, par exemple, pour un rhume, qu'est-ce que vous utilisez?
Pour un rhume, je vais faire un petit remède ayurvédique qui consiste à utiliser du gingembre frais,
oui.
Du miel, du curcuma et du jus de citron frais aussi.
Mmh. D'où vous tenez toute cette connaissance? Comment est-ce que progressivement vous êtes aguerri à connaître tout cela et à pouvoir composer ces menus pour vos enfants dans n'importe quelle situation?
Alors en fait, comme vous avez dit, j'ai découvert ça pendant que j'étais enceinte et je me suis tout de suite sentie bien et j'ai décidé d'étudier l'Ayurveda.
D'accord.
Donc je me suis inscrite et j'étudie l'Ayurveda avec un docteur indien depuis presque 2 ans.
D'accord. Alors l'Ayurveda est devenu un art de vivre pour vous. Vous utilisez les principes autant pour l'alimentation que pour les règles d'hygiène ou pour les règles de relaxation, je crois.
Oui, c'est bien ça, tout à fait.
Mmh. Alors, je me tourne vers vous, Fabien Koresh. Existe-t-il une médecine des enfants en Ayurveda?
Oui, tout à fait. En Ayurveda, il y a, on va dire, 8 spécialités, 8 branches particulières. Et la pédiatrie, ce qui est appelé Bala Chikista, ça c'est le nom indien,
oui.
De sanskrit, s'occupe particulièrement de tout ce qui a trait à la mère et à l'enfant.
Mm-hmm.
Donc c'est autant pour le moment de la grossesse et autant pour le moment du petit enfant.
Et pour tous les auditeurs qui seraient tentés par la médecine ayurvédique, est-ce qu'elle est complémentaire de la médecine moderne? Elle ne se substitue pas à elle?
Non, pas du tout. On est dans un esprit de complémentarité.
Oui.
Quand il y a des choses vraiment importantes au niveau pathologique, bien entendu, qu'il faut savoir retourner toutes les compétences pour la santé de la personne. Il ne s'agit pas de faire un prosélytisme ou une exclusivité. Le bien-être de la personne et la santé de la personne est avant tout à mettre en avant, quelle que soit la technique.
Mmh. Fabien Koresh, vous restez en ligne avec nous pour continuer à nous éclairer sur cette médecine qui est l'Ayurveda. Merci mille fois, Muriel, pour votre appel et pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans un instant, nous allons accueillir Virginie. Elle a découvert récemment l'Ayurveda, mais elle a du mal à intégrer toute tous les rituels à son quotidien.
Europe 1. Vous aussi, comme Muriel, au 39-21, l'Ayurveda fait partie de votre quotidien. Vous soignez le corps, l'esprit de toute la famille selon les principes de la médecine ayurvédique. Venez nous raconter votre expérience de vie sur Europe 1. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et on vous demande si vous êtes adepte de la médecine ayurvédique. Soigne-t-elle réellement, selon vous? Et quel bienfait ressentez-vous? Vous nous le dites au 39-21.
Et nous sommes en ligne avec Virginie. Bonjour Virginie, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Virginie?
Alors, j'ai 26 ans et je suis à Strasbourg.
Alors, vous, Virginie, vous vous êtes intéressée à cette médecine, hein, à l'Ayurveda, et vous pratiquez depuis peu, puisque cela fait 3 mois. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y mettre?
Alors, en fait, je cherchais une façon de me soigner qui était naturelle. Et... d'améliorer de façon générale ma santé, qu'elle soit physique ou, on va dire, psychologique. Me sentir bien dans mon corps et dans ma tête.
D'accord. Et comment avez-vous déterminé votre dosha?
Alors, je l'ai déterminé sur Internet. J'ai fait 2 tests, oui. Tout simplement. Mmh. Donc, un premier test qui s'appelle le PACRITI, il me semble,
oui.
Qui consiste en fait... à étudier, par exemple, son pouls. Ensuite, il y a d'autres questions par rapport à l'aspect physique de la personne, donc la couleur de ses yeux, sa mmh. taille, sa morphologie. Mmh. Donc ça donne le dosha de naissance.
D'accord.
En fait.
Et quel est votre dosha, alors, vous?
Alors, je suis Vata.
Vous êtes Vata, d'accord. Donc, ce qui vous dirige vers une pratique particulière dès le début?
On va dire que ça m'a permis de comprendre le déséquilibre que je pouvais avoir et l'origine de mes maladies, en fait.
D'accord, parce que je crois que vous souffrez d'un eczéma, hein, que vous n'avez jamais réussi à soigner malgré de nombreux traitements. Est-ce que les rituels ayurvédiques vous aident à l'apaiser?
Alors oui, tout à fait. En fait, ça fait depuis ma naissance du coup que j'ai de l'eczéma et que... Malgré plusieurs traitements, je n'ai pas réussi à le soigner et l'Ayurveda m'a permis en fait d'avoir des rituels d'hydratation de la peau ou de soins de la peau sans utiliser des produits chimiques ou des médicaments mmh. qui ont permis de renforcer du coup ma peau du coup par rapport à l'eczéma.
D'accord. Vous dites que l'Ayurveda est aussi un mode de vie qui compte beaucoup de rituels et que d'ailleurs vous avez du mal à tous les intégrer à votre quotidien. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop?
Alors oui, c'est plus une question de quantité qu'autre chose, puisqu'en fait, si on suit vraiment l'Ayurveda au niveau des rituels qu'on devrait faire le matin, vous en comptez à peu près 10 en fait,
oui.
chaque matin.
Mmh.
Donc c'est un peu compliqué, on va dire, de préparer tout ça avant d'aller au travail. Il faut compter une bonne heure et demie, voire 2 en fait,
d'accord.
Pour faire tout ça.
Mmh. Fabien Corrège, je me retourne vers vous parce que on écoute Virginie. Et est-ce que vous auriez quelques conseils à lui donner pour que justement elle puisse bien commencer à pratiquer ces rituels? Et est-ce que voilà, vous avez quelques conseils, quelques éclairages à lui apporter pour qu'elle prenne d'emblée le bon chemin, pour que peut-être ça soit plus facile pour elle d'intégrer ces rituels?
Oui, alors c'est vrai que ça paraît beaucoup hein, à pratiquer dès le matin. Et surtout, ce qui est important, c'est d'en tirer une satisfaction.
Mmh. Hein,
si on fait par obligation, systématiquement, au bout d'un moment, on va décrocher et on ne va plus du tout adhérer ou plus faire. Hein, c'est qu'il va faire une régression. Donc, il faut toujours en avoir une satisfaction. C'est pour ça qu'il vaut sur la dizaine hein, de pratiques qu'il pourrait y avoir le matin. Il faut en sélectionner uniquement un tiers
oui.
où on sait qu'on va pouvoir s'y tenir à long terme et en ressentir un bénéfice. À ce compte-là, ce sera encore plus facile au bout de certains temps, de quelques semaines ou quelques mois, d'intégrer les suivants.
Parce que vous parliez tout à l'heure de 890 millions d'Indiens qui pratiquent hein, l'Ayurveda, mais j'ai comme l'impression que cette médecine traditionnelle existe depuis la nuit des temps et qu'on est presque dans un quotidien pour tous ces Indiens. Or, est-ce que ça n'est pas une médecine trop complexe à comprendre pour nous, occidentaux?
Alors, c'est vrai qu'on a des logiques hein, assez différentes au niveau de la conception de la vie. Donc, il faut s'habituer dans cette vision et dans ces philosophies d'explication de la biologie ou de la vie, c'est vrai que ça demande une gymnastique que l'on n'a pas. Donc il faut un certain temps, c'est pour ça que c'est ce qui est très intéressant, vous voyez, on peut partir de là où on vient en changeant un petit peu des épices dans sa cuisine, en changeant un petit peu ses façons de faire le matin, et petit à petit on va ressentir les bienfaits, ce qui va nous amener à étudier un peu plus loin l'Ayurveda. Mais on a besoin de l'expérimenter vraiment pour s'y faire, effectivement.
Alors Virginie, vous entendez Fabien Koresh, qui est praticien en Ayurveda. D'abord, je vous conseille de lire son ouvrage déjà, peut-être pour vous familiariser à quelques rituels qui vous sembleront plus faciles. Vous évoquez que tout le matériel nécessaire au rituel coûte cher, Virginie. Est-ce que c'est un frein aujourd'hui pour votre pratique ?
Alors non, c'est pas forcément un frein, mais disons que ça fait partie d'une étape pour moi à franchir pour vraiment pratiquer correctement l'Ayurveda. En fait.
D'accord. Et par exemple, qu'est-ce qui vous manque pour faire quoi, pour que je me rende bien compte et que les auditeurs se rendent compte ?
Alors vous avez par exemple des gratte-langues en cuivre. Donc, beaucoup d'outils, on va dire, dans l'Ayurveda sont en cuivre, puisque il me semble que c'est un métaux qui est antiseptique.
Oui, oui, oui.
Donc,
complètement.
Vous avez du coup ces gratte-langues, vous avez notamment des petits lavenets, en fait,
oui.
Ou encore des bols en cuivre dans lesquels il faut faire stagner de l'eau pour la boire le matin pour vous purifier, en
oui,
fait.
Oui, d'accord. Merci Virginie pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1 et bravo pour ces débuts dans l'Ayurveda. Je vous souhaite bon courage pour pratiquer cette nouvelle médecine pour vous. Pour conclure cette émission, nous allons accueillir une autre Muriel qui a fait une cure ayurvédique en Inde.
Europe 1.
Pour le corps et l'esprit, pour l'hygiène de vie, nettoyer l'organisme, vous appliquez les principes de l'Ayurveda. Qu'est-ce que ça vous procure et est-elle accessible à tous? Le 3921 pour nous le dire. Merci de choisir Europe 1. Nous parlons de l'Ayurveda qui met l'accent sur le yoga, la méditation, les massages, l'alimentation. Comment appliquer ces principes? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et pour conclure cette émission, nous avons avec nous Muriel. Bonjour Muriel, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous Muriel, c'est parce que vous étiez l'adepte de massage que vous avez découvert l'Ayurveda il y a quelques années déjà. Oui. Dans quelles conditions l'avez-vous découvert et qu'est-ce qui vous a plu instantanément?
Donc effectivement, moi j'étais grande consommatrice de massage chinois,
oui.
Et je suis partie apprendre à masser en Thaïlande. Mais en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin que des techniques, je dirais, externes.
Mm-hmm.
J'ai eu envie de comprendre la santé du point de vue vraiment global. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler d'Ayurveda, qui est un système complet de compréhension et d'interprétation et aussi de soins du corps.
Alors, je crois que vous souffriez de problèmes de santé chroniques liés à votre mode de vie sédentaire et à votre alimentation. Votre praticien en Ayurveda vous a alors conseillé de partir en Inde pour faire une cure. Comment s'est-elle déroulée, cette cure ?
Tout à fait. Alors, je vais bien sûr expliquer la cure, mais tout d'abord, vous expliquer comment mon mode de vie m'avait impacté. Donc, j'étais très sédentaire, assise de longues heures devant des écrans.
Oui.
J'avais donc aussi tendance à un peu trop manger, de surcharger ce qu'on appelle le feu digestif en Ayurveda.
Oui.
Et de ce fait, en fait, j'avais une très mauvaise flore intestinale avec pour conséquence des cystites chroniques, des maux de rein. Et aussi une mycose à l'ongle des pieds, en fait, qui était douloureuse, même si elle n'était pas visible.
Mmh.
Et en fait, j'étais vraiment dans un cycle qui était assez délétère et qui finissait les mois passants par affecter déjà mon moral,
oui.
Mon énergie. Donc vraiment, cet encrassement des canaux et des tissus a été repéré.
Oui.
Et il m'a été conseillé donc d'utiliser mes vacances en Inde pour aller en cure ayurvédique, où j'ai été recommandée pour aller dans une institution très connue à Mysore,
oui.
Qui s'appelle GSS Ayurvedic Hospital.
D'accord. Ce séjour, il a soulagé vos maux, en fait
Alors, le résultat, tout à fait.
Oui.
Les moyens, je peux vous les décrire, mais en tout cas, le résultat, c'est que je suis ressortie. Je n'avais plus ces douleurs de reins, j'avais plus les cystites.
Mon intestin
était
En 11
totalement,
jours.
Totalement, voilà. Mmh. Purifié.
On sent que une fois rentrée d'Inde, tous ces rituels vous ont servi. Vous avez continué donc à appliquer ce que vous aviez appris en Inde. Vous travaillez dans la cybersécurité, un travail que vous dites très intense et très stressant. Les rituels ayurvédiques vous aident-ils à résister au stress quotidien et quel type de rituel justement?
Alors le chirudin est extrêmement bénéfique. Le fait aussi au matin de respecter.
C'est quoi exactement répétez-moi le nom exactement.
Ah, le Shirodhara, c'est oui. Le soin royal en Ayurveda.
D'accord. Et il correspond à quoi?
C'est un filet d'huile chaude.
D'accord.
D'huile médicalisée, c'est-à-dire qui ont pris les propriétés des plantes.
D'accord.
Avec lesquelles ils ont été en contact. Et qui va balayer le front de gauche à droite. Et donc, en fait, stimuler le troisième œil, mais alors ça, c'est des interprétations anciennes, mais on va dire que du point de vue de l'équilibre neurologique, ça va apporter un apaisement.
D'accord. On entendait Virginie dire combien il était difficile pour elle d'intégrer les premiers rituels ayurvédiques. Est-ce qu'il en a été de même pour vous? Est-ce que vous les intégrez, tous ces rituels, à votre quotidien aujourd'hui?
Alors, en fait, je ne vais pas faire, par exemple, un automassage à Bianga, à l'huile de sésame, quotidiennement. Par contre, quand je suis en fin de semaine, là, par exemple, je peux m'autoriser d'avoir plus de temps et aussi d'avoir aussi l'application un certain nombre d'heures de cette huile de sésame, ou bien, par exemple, de faire des bains d'huile de coco sur les cheveux.
Oui.
Ce qui nourrit le cuir chevelu et donne le cheveu brillant. Moi, j'assume par exemple de ne pas avoir de teinture. Je garde mes cheveux poivre et sel,
oui.
Qui sont très longs et de bonne qualité. Pourquoi? Parce que j'ai aussi ce rituel de mettre de l'huile de coco dessus.
Je repense à l'huile de coco que Muriel donnait à ses enfants en hiver. On voit que, par exemple, voilà, la noix de coco paraît très importante dans ces rituels ayurvédiques. Merci Muriel pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Natalia, à Virginie et à l'autre Muriel de nous avoir appelés, ainsi qu'à Fabien Corrège pour ses éclairages. L'Ayurveda est à la fois une philosophie, une médecine et un art de vivre. Elle repose, on l'a vu, sur une routine rigoureuse adaptée aux besoins de chacun. Si vous souhaitez en savoir plus, de nombreux livres existent et peuvent vous renseigner. Vous pouvez aussi regarder des vidéos de Natalia April disponibles sur YouTube. Des praticiens en Ayurveda sauront vous guider et déterminer avec vous les routines alimentaires et d'hygiène qui correspondent à votre dosha. Que vous soyez Vata, Pitta ou Kapha, n'oubliez pas que les rituels ayurvédiques ne remplacent pas la médecine moderne. Elles ne sont qu'un complément. Vous pouvez continuer à en parler sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, n'hésitez pas à échanger sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1 et puis sur Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Lundi, nous parlerons ensemble de la vocation au travail. Jusqu'à quel point peut-elle nous pousser à agir? Quels sacrifices fait-on? Si vous avez toujours suivi votre vocation mais que vous avez dû faire des sacrifices, si vous avez finalement renoncé à votre vocation, appelez-nous au 3921 pour nous raconter votre histoire. Merci à Katia Maxime et à Angèle Châtelier, assistée d'Armel Thiberge à l'éditorial de cette semaine. Merci aussi à l'excellent Boris Paczynski à la réalisation. Et merci à vous, Ombline, ma chère Ombline. Et puis merci à vous tous qui êtes chaque jour présents avec nous.